Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je pense que j'ai sans doute toujours voulu sortir un petit peu du lot et juste, j'ai vraiment pas été capable au collège, en fait. Quand il y a des gens qui commencent à bien t'aimer, à trouver que c'est cool ce que tu fais, t'es d'autant plus content que tu sais ce que c'est que d'être de l'autre côté, quoi. De pas être aimé, qu'on se foute de ta gueule, d'aller au collège et que de savoir que ça va être difficile pendant la journée. Voilà, c'est que tu savoures beaucoup plus les moments où c'est plus comme ça, parce que t'as vécu ça.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Alors ça, c'est un filtre parce que chez moi en particulier, je capte la radio, je capte les ondes. Si mon invité fait ça,
oui,
il y a la radio, il y a les pubs. J'ai mis très longtemps à comprendre d'où ça venait.
Et ça, donc, c'est un filtre qui enlève les
ondes AM. J'ai un ingé son qui m'a dit un jour, non mais c'est ça.
Oui.
Et j'ai acheté ce truc-là parce que t'en trouves pas en fait. Donc j'ai dû aller acheter en Angleterre, voilà. J'ai commandé en Angleterre.
Et ça marche depuis.
Ça marche super. Il n'y a plus de... Voilà.
Truc de fou. Et par ailleurs, tu as autre chose pour...
Oui, alors ça, c'est des petits compresseurs et des boosters de son, quoi, tu vois. Pour
que le son, il soit, ouais, voilà, rond comme...
Un peu moins de bruit blanc.
Ouais, exact.
Tu connais, toi, hein?
Je connais un petit peu pas suffisamment et je dois dire que la compression du son, c'est un truc sur lequel je me suis rarement intéressé. Mais je sais que c'est la différence entre un son bien et un son pas bien pour le genre de choses qu'on
broadcast.
Fait.
Broadcast.
Voilà, un son broadcast et il y a jamais ça dans mes vidéos. Et il y a toujours un moment où je me suis dit, faut que je me penche sur cette question et personne autour de moi immédiatement, disons, ne s'y connaît.
Ouais.
Et j'ai jamais pris le temps de faire venir quelqu'un et dire, attends, comment on fait, oui. Comment j'améliore mon truc, etc.
C'est donc, sûr que si tu mets un ingé son face à mon son, il doit dire c'est dégueulasse, mec. Tu vois, un ingé son de Radio France ou dire, écoute, mec, fais un peu un travail.
Ouais.
Une fois que j'ai regardé un peu, je me suis dit, ok, c'est juste potentiellement le travail d'une vie, tu vois. Si tu commences à nerder de ouf sur la compression du son, c'est horrible, quoi.
Oui, et puis en plus, faut voir qu'il y a 0,5% des gens qui vont s'en rendre compte. Et voilà. Encore, je suis gentil quand c'est 0,5, donc c'est...
Faut que les gens aient des casques de ouf, HD, hi-fi.
Voilà. Et que tu leur mettes vraiment un son exceptionnel juste à côté d'un son, de ton son pour qu'ils s'en rendent compte. Donc, je veux dire, ça n'arrive jamais.
Voilà. En plus, je compresse au maximum parce que, tu sais, c'est sur Internet. Alors, faut compresser un peu. Voilà, donc après, on perd tout.
Oui, voilà.
Donc, c'est n'importe quoi. Comme faire des vidéos vidéos en 4K pour finir par mettre sur TikTok.
Ouais, ouais, ouais. Après, l'intérêt de ça, c'est que tu peux
multi-diffuser.
Oui, et puis quand tu fais en 4K et qu'ensuite tu diffuses dans une résolution beaucoup plus petite, en gros, c'est comme si tu avais fait 4 plans en un. C'est-à-dire que tu as le plan large, le plan moyen et le plan serré, et tu peux zoomer jusqu'au plan serré, t'en as fait un seul, t'en as pas fait 3. Donc, il y a un petit peu une économie au tournage quand tu tournes en 4K. Ouais.
On a commencé cette interview sur les chapeaux de roue.
Et commence fort par la technique, comme ça, bam, 4K, compression.
C'est très intéressant parce que je trouve que ça marche très bien avec ton parcours. J'ai l'impression que tu as touché à plein de choses.
Oui.
Et typiquement, ça m'étonne pas que tu sois curieux de, tiens, qu'est-ce qui se passe comme, pas beaucoup d'invités, tu vois, qui regardent mon matos et qui disent, alors, qu'est-ce que c'est exactement ton truc?
Oui, en fait, je me suis beaucoup intéressé au matériel quand même, sans doute pas autant que j'aurais dû, mais quand même pas mal. Oui, c'est moi-même qui ai acheté mes caméras pour savoir lesquelles étaient en me renseignant avant sur lesquelles étaient bien ou pas. Il y a des objectifs que j'achète régulièrement en me disant, attends, ça serait quand même bien pour.
Boîte de prod. Hein.
J'ai ma propre boîte de prod, oui.
Et ça, c'est déjà, ça en dit long. C'est... Le mec est un businessman.
Alors, c'est le businessman, ce serait été, c'est genre, je vais développer cette boîte de prod pour qu'elle produise d'autres choses et que j'ai. Et en fait, c'est juste une coquille pour me permettre de faire mon travail à moi, pour faire des factures et pour pouvoir un peu embaucher des gens aussi quand c'est nécessaire.
Un caméraman que tu martyrises un peu après, quoi.
Voilà, c'est bon, je pense qu'il m'aime bien quand même, sinon il serait plus là. Il peut partir quand il veut. Hein.
Il est libre. David, en tout cas, merci beaucoup. D'accepter de venir à mon micro. Ça fait un petit moment que je suis ton travail et en fait j'ai découvert que là t'as sorti, et c'est pour ça qu'on se rencontre aussi, c'est que tu montes sur scène maintenant, donc t'as fait plein de choses, on va en parler, et tu montes sur scène dans un spectacle, donc c'est à la Scala à Paris, mais tu tournes partout aussi.
Hein. Oui, c'est à la Scala à Paris, il y a encore 4 dates, 2 au mois de mai et 2 au mois de juin. Je vais faire pas mal de dates en Suisse, je vais faire Avignon tout le mois de juillet, et ensuite je serai en tournée à Paris dans toute la France, au Trianon au mois de septembre, et dans plein de salles dans Nancy, Toulon, Saint-Étienne, Lyon, Lille, Bordeaux, tout ça.
Donc t'as décidé de monter sur, enfin c'est vraiment fou en fait, on va en parler, mais de comment t'as décidé de monter sur scène. Ton spectacle s'appelle Authentique. Où tu décris pendant une heure et demie, tu creuses un petit peu le concept de l'authenticité.
Oui.
Je suis très heureux de t'avoir sur le podcast parce que tu sais que c'est le podcast, c'est le média de l'authenticité.
De l'authenticité, exactement. Et de l'intime.
Tu as compris.
Oui. Non, mais bien sûr, mais parce qu'il y a quelque chose que cet ordre-là qui est permis dans le podcast. C'est-à-dire que là, on est là, chez moi. Il n'y a pas 50 milliards de personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment. Elles nous écouteront plus tard. Et voilà, il y a un truc chaleureux. On a l'impression qu'on discute et qu'on se connaît depuis longtemps. Et ça crée de l'intimité tout de suite. C'est un truc, effectivement. Mais je pense pas que c'est lié au fait que ce soit du son ni technique, etc. C'est juste les dispositifs qui font ça, quoi.
Je crois qu'il y a un côté, on a le temps.
Oui, c'est vrai.
On a une heure pour discuter ensemble. Il y a des podcasts qui font 3 heures, tu vois. Je sais pas. Bon, voilà.
Ouais. Ça sert. Il y a des gens qui s'en moquent des fois aussi.
Des podcasts de 3 heures, je comprends pas.
Ouais, c'est ça. Le premier épisode fait 57 heures. Hein.
Ça va être long. Je sais même pas comment ces gens font. Tu vois, parler 3 heures, c'est super long.
C'est très très long. C'est très très long. Et après. C'est aussi que, 3 heures, je pense que tu peux en faire 1 heure très très bien, mais il faut passer 2 jours à monter, quoi.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ce qui est chiant. En fait.
Moi, je préfère faire 1 heure et après, on garde tout.
Exact.
C'est un peu ma ligne d'édito. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de l'authenticité, de mettre en scène l'authenticité dans ton spectacle?
C'est quelque chose, disons que c'est un thème général qui me tient à cœur depuis longtemps, je pense depuis toujours, mais particulièrement depuis que j'ai 24-25 ans, où j'ai découvert un auteur polonais qui s'appelle Gombrowicz, et dont c'est le thème principal, en fait, la façon dont on est modelé par le regard des autres, pour faire simple, et de la difficulté vertigineuse à être conforme à ce qu'on estime être soi-même. Alors c'est hyper profond comme truc et c'est un peu insondable. Mais c'est des trucs qui ont des applications dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire Par exemple, est-ce qu'on dit toujours une phrase parce qu'on a envie de transmettre une information, ou alors est-ce qu'on dit des phrases parce que cette phrase qu'on a dite, elle rejaillit sur nous positivement et que c'est cool de l'avoir dite.
Je suis féministe.
T'es un homme, par exemple.
Exactement. Ou alors rencontrer quelqu'un et poser une question à rallonge dont en fait tu t'en tapes de la réponse. Mmh. C'est juste que tu trouvais ça cool de poser cette question et tu voulais qu'il te trouve cool parce que tu l'as posé. Et donc voilà, c'est des réflexions, ça, sur l'authenticité, tu vois, et que j'ai depuis une vingtaine d'années. Et j'ai essayé de rassembler ce thème et de faire une démonstration qui va d'un point A à un point B pendant une heure et demie de spectacle. Bien sûr, en mettant plein de blagues dedans.
Plein de blagues.
Et voilà, il y a des blagues, il y a des blagues tout le temps. Mais disons que c'était important pour moi d'avoir un propos qui traverse le spectacle.
Un fil rouge
et l'authenticité, c'était bon, ça s'est un peu imposé naturellement, quoi.
Ok. Voilà. Tu sais que j'adore interviewer les intervieweurs, et ouais. c'est un truc que tu alors t'es un intervieweur un peu particulier parce que t'es aussi de l'autre côté du micro plus régulièrement. Tu parles d'ailleurs d'un moment dans ton spectacle, d'un moment où t'as fait un small talk avec François Hollande de chez Combini, où tu lui poses une question et t'en as strictement rien à foutre de ce qu'il a.
Mais c'est ça, enfin, moi j'ai tendance à être peut-être un peu tête en l'air, mais genre j'ai vraiment posé la question et ensuite, je suis parti dans mes pensées de qu'est-ce qu'il pense de la question que je lui ai posée, parce que j'ai quand même mis ce mot-ci et ce mot-ci. Il a dû se dire qu'elle était vraiment bien, cette question. Et voilà, et là, ça a pris, et j'ai commencé à réfléchir à ça longtemps. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte, mais attends, je lui ai posé une question et j'écoute pas la réponse, là. Et voilà, et ça, c'est vraiment être très vaniteux et centré sur soi-même. Et donc voilà, oui, mais ça m'est... Je dis la réponse, je le dis avec François Hollande, mais ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, en fait.
Moi, je vais essayer d'être 100% présent avec toi, tu vois.
C'est gentil.
Maintenant, là. En tout cas, tu sais, j'aimerais qu'on commence par la première question que je pose à tous mes invités.
Oui.
C'est à David, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans?
Quand j'avais 7-8 ans, je crois que j'étais déjà... j'étais un bel enfant. Visuellement, j'étais bien, quoi.
J'étais déjà j'étais déjà
non,
beau.
Malheureusement, le déjà... non, je pensais en trop. Non, j'étais franchement, visuellement, j'étais quali. D'ailleurs, il y a des gens qui voient des photos de moi quand j'étais enfant et qui se disent « Attends, t'étais beau ?» Et avec une sorte de petit truc incrédule comme ça, genre « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette dégradation entre tes 7 ans et maintenant ?» Et voilà, donc déjà visuellement j'étais bien, j'étais un peu, j'étais pas discret, c'est-à-dire je criais beaucoup un peu dans tous les sens, j'étais très dynamique, je faisais du sport dans tous les sens alors que j'en fais plus du tout, ce qui peut-être expliquer que j'étais aussi beau gosse parce que je faisais du sport, maintenant plus du tout, enfin beau gosse quand on a 7 ans, je sais pas si c'est un bon terrain où aller là.
Tu te trouvais beau gosse en tout cas avec l'autre.
Ouais, puis même je crois les gens ils me disaient oh là là il est beau ton fils, il disait à ma mère.
Ah.
Et après, ils ont plus trop dit ça. Et voilà. Et par ailleurs, non, et je faisais déjà.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un peu des blagues. Je faisais déjà un peu des blagues quand j'avais 7 ou 8 ans. J'étais fan, ça c'est un truc qui est resté, je me passionnais pour des choses, mais à m'en arracher la tête pendant des périodes relativement courtes. Mais vers 7-8 ans par exemple, c'est l'âge où j'ai commencé à être passionné par les chiens. Et j'ai vraiment lu tous les livres sur les chiens, regardé, je connaissais toutes les races de chiens, j'étais obsédé par les chiens complètement, ça a duré d'ailleurs après 8 ans même.
T'avais un chien ?
J'en avais pas, et c'était bien le problème, c'est que je demandais à mes parents, mais je veux un chien, je dis non mais c'est chiant. Et le truc un tout petit peu triste, c'est j'ai fini, mais vraiment, genre, j'ai fait du lobby pendant des années, et ils ont fini par dire oui, et ils ont dit oui en... janvier 1994, j'avais donc 12 ans, j'étais encore enfant. Ils m'ont dit, tu l'auras pour ton anniversaire. Mon anniversaire, c'est au mois de septembre de la même année. Et c'était mes 13 ans. Et le truc, c'est que entre 12 ans et demi et 13 ans, on change.
Ah oui.
Et précisément entre le moment où ils m'ont dit que j'aurais un chien et le moment où je l'ai eu, bah, je suis devenu adolescent et j'en avais plus rien à foutre des chiens. Et donc, quand le chien est arrivé, qui s'appelait Jazz, paix à son âme, il est décédé, eh bien, en fait, j'étais plus si content que ça parce que ma passion, c'était devenu le basket. Et genre, il y avait que ça qui m'intéressait dans la vie et j'en avais plus rien à foutre d'avoir un chien. Voilà. Et, mais aujourd'hui encore, je peux reconnaître les races de chiens très très bien. Des fois, on m'appelle le Shazam de chien. Et je peux Shazamer les chiens avec mon
visage. C'est pas un truc que t'as oublié, quoi.
Non, enfin, j'ai sans doute oublié quelques petites choses, mais il est resté des choses de cette passion. Ouais.
On va reparler après du basket, mais t'as voulu devenir champion NBA à un moment donné, c'est ça? Bah, t'as caressé cette idée.
Mais je sais pas, t'as 13 ans, entre 13 et 14 ans, et t'es fan d'un truc. Je suis un peu enrhumé, je le sens que je parle du nez. T'es complètement fan d'un truc de NBA, mais vraiment, t'y penses toute la journée, tout ça, et tu dis, mais attends, peut-être c'est possible, peut-être que si je travaille bien et que je m'entraîne et je pourrais aller en NBA, peut-être. Alors je sais que c'est difficile, mais peut-être. En tout cas, j'ai commencé suffisamment tôt. Voilà. Alors c'était un tout petit peu dur de se projeter à l'époque parce que faut voir qu'on était dans au milieu des années 90 et il n'y avait pas de Français en NBA.
Non.
Le seul qui était vaguement d'origine française, c'était un type qui s'appelait Dominique Wilkins qui jouait aux Atlanta Hawks. Et Dominique Wilkins, genre. Il avait genre un arrière-grand-père français à la Nouvelle-Orléans, quoi, un truc comme ça. Enfin, c'était le meilleur qu'on pouvait trouver quand on était français pour s'identifier. Et voilà. Et donc, j'avais pas qui m'identifier. Et même comme ça, je me disais, ouais, non, mais si, ça va être possible. Nanana. Et non, en fait, voilà, ça n'a pas été possible. Mais c'était même pire que ça, puisque j'ai fait du basket, j'ai fait un an en club.
Un seul an.
Une seule année. Et j'allais aux entraînements chaque semaine. Et à la fin de chaque entraînement, l'entraîneur, il criait à haute voix, enfin, il disait à haute voix très fort le nom des joueurs qui étaient sélectionnés pour le match de
pour
la semaine.
Match du week-end.
Et il n'a jamais dit mon nom. Pas une seule fois. Alors si, une seule fois, il l'a dit parce que il y avait tellement de gens sélectionnés que, en fait, ça allait plus vite de dire le nom de ceux qui n'étaient pas sélectionnés. Et c'est la seule fois où il a dit mon nom. Voilà. Et c'est des moments tristes parce qu'en plus, j'ai joué avec un ami à moi qui s'appelait Pierre Arnaud et lui était tout le temps sélectionné.
Lui était trop fort.
Bah, il était juste moins mauvais, quoi. Voilà, c'est tout. C'est le maximum de gloire que j'ai eu, c'est qu'il y avait un type qui était très très bon dans l'équipe et qui marquait beaucoup de paniers à trois points, qui dribblait super bien et qui avait des plaquettes de chocolat, tout ça, machin. Et un jour, on a fait un entraînement et j'ai marqué pas mal de paniers. Et là, il m'a regardé, il m'a dit tu sais, au fond, t'es pas si mauvais, hein. Et voilà, c'est le maximum du compliment que j'ai eu dans ma vie en ce qui concerne le basket. Voilà,
je me suis douté que tu étais fan de basket quand j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur quand où tu remets justement
Je suis allé retrouver mon entraîneur, 20 ans plus tard, le bâtard qui m'avait jamais sélectionné.
Je me suis dit, forcément, le mec fait une vidéo sur le basket. Enfin, tu vois, sinon, t'aurais fait le foot, quoi.
Bah oui. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai, sinon, j'aurais fait le foot.
Le monde se divise en deux.
J'ai été fan de foot pendant une petite. La Coupe du Monde 1990.
Ah oui.
Voilà.
En Italie, c'est ça?
En Italie, exactement. Ah, okay. Coupe du Monde 1990, c'est la seule Coupe du Monde dont j'ai regardé tous les matchs. Je mettais ça dans un carnet, je mettais tous les scores, tout ça. Donc, je connais les joueurs de cette époque-là et très peu ceux des époques suivantes.
Donc, t'es comme ça, t'es un gros nerd d'un sujet à un moment donné.
Exactement.
Et c'est ça qui fait que finalement, t'en as fait ton métier, quoi. Parce que c'est ta passion, quoi.
Non, mais franchement, je n'ai fait que prolonger professionnellement ce qui est un penchant complètement naturel au départ, quoi.
Tu parles un peu, pour revenir à ton histoire, tu parles un peu de ton collège et du fait que t'étais gros, en fait, notamment en sixième, c'est ça. T'en parles de façon un peu touchante, hein, d'ailleurs, dans le spectacle. Tu t'es fait harceler, hein, je crois qu'il faut.
Oui.
À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, j'imagine.
Non, c'était pas un truc qui était dans le paysage des trucs auxquels on faisait attention, le harcèlement. Et puis après, faut aussi être mesuré. J'ai pas été non plus brimé comme certains peuvent l'être. Et j'étais pas en plus si gros que ça. Je pense que si j'aurais été vraiment, ça aurait été terrible. Mais j'étais, disons, un peu enveloppé.
T'avais quand même, enfin, les gars qui te bully, t'avais appelé quand même
David Castello Lopez, alors que je m'appelle David Castello Lopez. C'était très bien trouvé.
Trop bonne vanne méchante, en fait.
Excellent jeu de mots, quoi. Excellent jeu de mots. C'est vraiment le truc, si ça avait pas été moi la victime, j'aurais trouvé ça hilarant, quoi. Et juste, voilà. C'était moi, David Castello Lopez.
T'as l'impression, alors après, tu racontes un peu dans ton spectacle que t'as grandi, que t'as eu ton duvet. Enfin, je vais pas tout spoiler le spectacle, mais est-ce que t'as l'impression que ce moment-là un peu dur, ça t'a donné envie de sortir du lot plus tard, quoi, tu vois. Sans pour autant faire, tu vois, un truc de revanche.
Alors, est-ce que ça m'a donné envie de sortir du lot? Je pense que j'ai sans doute toujours voulu sortir un petit peu du lot et juste, j'ai vraiment pas été capable au collège, en fait. C'était vraiment un échec total. Enfin, non, d'une certaine façon, je sortais du lot puisque il y avait des gens qui étaient invisibles. Moi, j'étais pas invisible, j'étais un peu souffre-douleur. Donc, j'existais d'une certaine façon en tant que souffre-douleur. Les psychanalystes, ils auraient sans doute plein de trucs à dire là-dessus. J'arrivais à exister par le fait d'être brimé. Non, j'en sais rien. Mais le non, et après, non, disons que ce qui se passe, c'est qu'ensuite, quand c'est plus le cas, et quand il y a des gens qui commencent à bien t'aimer et à trouver que c'est cool ce que tu fais, t'es d'autant plus content que tu sais ce que c'est que d'être de l'autre côté, quoi. D'être, de pas être aimé, qu'on se foute de ta gueule, de passer de, tu vois, d'aller au collège et de savoir que ça va être difficile pendant la journée. Voilà. C'est que tu savoures beaucoup plus les moments où c'est plus comme ça, parce que t'as vécu ça.
Est-ce que là, donc je suis allé te voir à la Scala, la salle est immense,
oui.
Les gens t'ovationnent, à la fin ils t'envoient leurs culottes sur la scène. Non,
pas, ça. Pas encore.
Pas encore.
Mais s'ils veulent le faire, je n'ai aucun problème contre ça. Je trouve ça très bien.
Est-ce que ça soigne un truc en toi? Tu vois, je me demandais. C'est beaucoup d'amour quand même là, tu vois.
Oui, oui, oui.
Et surtout, je dis ça aussi par rapport au fait que t'as beaucoup travaillé sur Internet, et
oui.
Que t'as reçu des likes, t'as reçu des commentaires, j'imagine t'as reçu plein de messages, mais
oui.
Sur la scène ça fait un truc quoi, j'imagine.
Sur la scène, ça fait complètement un truc. Je suis toujours surpris de voir que l'effet de plaisir, qui est quand même très fort, il dure pas hyper longtemps. C'est-à-dire que c'est vrai que je sais pas s'il y a 10 ans, ou même il y a 20 ans, genre même quand j'étais au collège, tu m'avais fait un flash forward, tu m'avais dit genre, hey, tu seras sur une scène et il y a des centaines de personnes qui feront genre ouais, trop bien et qui applaudiront tout ça, j'aurais fait oh, mais en fait ça me suffit que ça arrive une fois et je serais content pour le restant de mes jours. Et en fait bah là non, t'es content. C'est quand ça se passe bien, tu te couches content, tu passes une bonne soirée et tu te réveilles le matin et ah, c'est déjà un petit peu parti, puis après il faut recommencer en fait, voilà. Et c'est il y a un mot très bien en anglais qui est afterglow. L'afterglow, on peut dire qu'on est dans l'afterglow d'un succès, c'est-à-dire que c'est le moment, ce petit halo qu'il y a après soit un compliment qu'on te fait, soit un succès, soit un truc, bah, un truc qui s'est bien passé, le fait d'avoir séduit la personne que tu avais envie de séduire. Et voilà. Et ça dure un certain temps. Et moi, les afterglow, j'ai toujours remarqué qu'ils sont de faible durée. Voilà.
Et. Ok, ok. Tu sais d'où ça vient?
L'afterglow?
Ouais. Enfin, non, que chez toi, ils sont...
Ah! Bah. Je sais pas, mais il y a un petit truc. En fait, je crois que. Alors, c'est peut-être présomptueux de dire ça, mais il y a un tout petit truc d'ambition, quoi. C'est-à-dire, genre, ok, ça, c'est réussi, c'est cool. Maintenant, vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et je dis ça, mais alors, quand ça se passe pas bien, il y a eu un ou deux soirs depuis que j'ai fait la journée où c'est, ah, tu sais, c'est un peu moins bien, t'es un peu moins bon, la salle est un peu moins bien, puis comme la salle est un peu moins bien, toi aussi, t'es un peu moins bien, et tout ça, ça fait un petit peu de petit vortex pas top. Quand c'est ça, alors là, le contraire de l'afterglow me dure beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que vraiment ça peut me mettre et je suis vraiment pas bien quoi. Il y a quelques jours j'ai fait l'émission C'est à vous.
Ouais.
Et en fait ils devaient faire ma promo puis ils l'ont pas faite, et finalement ils devaient faire ma promo plus une chronique, et j'ai fait que la chronique c'était un peu un extrait du spectacle, il était un peu what the fuck, il était un peu comme des cheveux sur la soupe.
Ouais.
Puis comme on m'avait à peine présenté, en plus elle s'est trompée 2 fois dans mon nom. mais c'est pas grave, ça, enfin complètement, ça arrive, ça,
oui.
Ça arrive complètement, enfin quand tu reçois 200 personnes par semaine ça arrive complètement, mais disons que moi qui en fait est beau de faire ce que je fais, je pense que je suis un tout petit peu fragile, tu vois.
T'es blessé là sur...
J'ai été un petit peu blessé, ouais. Quoi. J'ai été un petit peu blessé. Puis en fait, oui. Puis je sais pas. Il y a eu assez peu de réactions. C'était la fin de l'émission. Après, tout le monde est parti. Et là, je dois dire que pendant 24 heures. Alors, j'étais pas par terre, mais tu sais, une légère mauvaise humeur qui reste, quoi.
Ouais.
Tu vois, voilà. Et tu dis, ça te remet à ta place. Tu dis, mais attends. Voilà. Et ça dure beaucoup plus longtemps que le contraire, en fait.
Ouais, je comprends. Voilà. Putain de psychologie, quoi.
Ouais, exactement.
Pour revenir à ton histoire, le lycée se passe bien pour toi? Ça se passe mieux, en tout cas tu...
Le lycée se passe bien. Il y a eu une petite charnière, en fait, à la fin de l'année de seconde, où, en fait, au début de l'année de seconde, je traînais avec les gens pas très cool. mais que je salue aujourd'hui parce que c'est du cool nul, c'est du cool pas cool nul, enfin c'est des trucs qui auraient pu très aujourd'hui, mais c'était
genre
pas
les nerds, c'est ça, t'étais
c'était
avec...
pas les populaires quoi, ouais. C'était pas les populaires. Et puis à un moment je suis parti en vacances pendant une semaine avec un des types cool, un peu par hasard parce qu'il était un peu au même endroit avec ses parents, etc. Et en fait on s'est super bien entendu. Il s'appelait Mathieu Davy, il existe toujours ce monsieur. On s'est super bien entendu et dans une certaine façon, il m'a intronisé dans le groupe des cools à la fin de l'année de seconde. Et je suis pour la première fois de ma vie passé du côté des populaires en étant moi-même en quelque sorte devenu un type un peu populaire. Et j'ai commencé à sortir avec des filles, à embrasser des filles et tout. C'était super. Barbara, Zotmi. Si elle m'écoute.
Salut Barbara.
Salut Barbara, qui habite dans le sud, je crois maintenant.
T'as tracé
ma chère. Non, je m'en suis revu dans un mariage, j'ai pas okay. Si longtemps. C'est pour ça. Et donc voilà, et j'ai migré. Alors après, le truc, c'est que c'était un petit peu tard parce que, en fait, le cool, en tout cas, je sais pas, dans mon lycée à mon époque, à partir de la première, à partir du moment où t'as 16 ans, il devient multiforme, quoi. C'est pas comme au collège où c'est un monobloc, les gens cool, ils sont comme ça, les gens pas cool, ils sont comme ça. À partir de la première, moi, je vois bien que le canal historique, je vois bien les gens qui venaient du canal historique du cool, qui s'habillaient en Carhartt et tout comme ça. En fait, ils me paraissaient plus si cool que ça.
Ouais.
Et moi, ce que je trouvais cool à ce moment-là, c'était les littéraires. Et dans les gens qui lisaient des livres et qui faisaient, j'ai rien que porter des écharpes et tout machin. Et voilà. Et j'ai vu qu'il y avait, en fait, le cool, c'est morcelé, et donc j'ai très très peu profité, disons, j'ai envie de dire du cool au sens collégien du terme, mais quand même j'en ai fait partie un moment et c'est très important pour moi.
Mais aujourd'hui t'es cool.
Moi
j'ai dit à mes amis, je vais interviewer David Castello-Lopez, ouais. Tout le monde était là, waouh, trop cool.
Et bah voilà, et bah ça me fait très plaisir, ça va me faire super plaisir
mais
pendant 5 minutes.
Mais tu le sais que t'es cool, non? Non mais tu le sais que t'es cool.
Est-ce que je sais que je suis cool? Il y a des fois où je me dis, ah ouais, c'est... mais en fait, ce que je dis, oui, il y a des fois où je me dis, pas mal là, machin, mais ça n'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas un moment où au bout d'un moment, je me prenne un petit truc, genre, ah, pas tant que ça. Et typiquement, ce qui est arrivé à cet à vous, c'était genre, ah, pas tant que ça.
T'es tu peut-être vois pas encore cet à vous cool?
Je suis peut-être pas cet à vous cool.
Et en même temps, est-ce que c'est pas une bonne chose de pas être cet à vous cool?
Mais non, en plus, cette émission, elle est bien, il y a plein de gens bien dedans. C'était plutôt genre, voilà, je suis pas encore sans doute à la hauteur pour plein de raisons.
Pour être à la télé, tard, c'est quoi. Ça, parce que c'est un peu ton...
J'y étais beaucoup à la télé, mais jamais dans ces conditions-là. C'est-à-dire, c'est ça que c'était, en plus, c'était un exercice nouveau.
Jamais en tant que David Castello-Lopez, où là, je crois que ce que tu faisais à la... Tu faisais des chroniques, en fait, c'est ça. Donc, t'étais vraiment... T'avais tes 5 minutes à toi.
Quand
t'étais chez Canal, par exemple.
C'est surtout que chez Canal, si, on me voyait très, enfin, il y avait une émission hebdomadaire qui durait 30 minutes dans laquelle j'étais pendant les 30 minutes. C'était tourné comme une fiction où je jouais mon propre rôle, tout ça. Simplement, c'était, je crois que c'était encrypté. Enfin, il y a très peu de gens qui regardaient, quoi. Le truc nouveau, c'est que c'était en direct aussi. Et ça, c'est quelque chose que je connais peu. Et donc, c'était un exercice nouveau, et c'était typiquement le truc de genre, ouh, ça, j'ai jamais fait, ouh, ça m'excite, est-ce que je vais réussir ou pas? Eh ben, non, voilà. en tout cas, enfin, la chronique, on peut la regarder en ligne, elle est pas, je pense pas qu'elle soit honteuse. C'est pas honteux, quoi. C'est pas juste genre, waouh, comment c'est gênant, le mec,
C'est juste par rapport à l'idée que t'avais.
Voilà. Exactement. Je me disais, putain, ça serait cool que ça se passe bien et que machin. Bah en fait c'était en dessous de mes attentes et voilà. Et tu vois, et ça te calme un petit peu. Tu dis genre attends, oui, ok, d'accord, il y a des trucs super et la Scala, et quand il y a 500 personnes qui t'applaudissent, c'est génial, mais tu vois, ça pas encore, tu vois. Et mais ça te remet un peu à ta place, et ça donne aussi des petits, tu vois, des petits objectifs, parce que on pourrait se dire, bah attends, ça c'est plus pour moi. Je me dis que peut-être un jour je passerai à cet à vous ou à une autre émission, et
tu serais peut-être même chroniqueur là-bas,
peut-être
à la place de Pierre Lescure.
Peut-être que je serais mieux, quoi. En tout cas, ça donne envie de progresser, en tout cas.
Ok. T'as toujours cette ambition-là aujourd'hui, t'as 43 ans.
41 ans. Pardon. Oh, il m'a rajouté 2 ans.
Ah oui, c'est t'as 40, t'auras 43 en septembre, c'est ça?
Non, j'aurais 42. 42,
bien sûr.
42,
ouais, 80.
Je suis né le 16 septembre 1980.
Ouais. T'as toujours cette ambition-là?
De quoi?
De grandir, de faire mieux aujourd'hui.
Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est un des moteurs principaux de mon existence. Peut-être parce que j'ai pas encore d'enfant, même si j'en veux, j'ai pas encore d'enfant. Donc en fait, oui, mon existence, c'est quand même beaucoup, beaucoup mon travail. Et le fait de dire, attends, non, j'ai déjà fait ça, il faut que je fasse un truc nouveau. Et le spectacle, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que
bah, j'ai fait des vidéos. Attends, vas-y, est-ce que je peux faire de la scène? C'est quelque chose de différent, mais c'est quelque chose de bien aussi. Et c'est un monde que je connais mal. Et voilà, et je l'ai pris très doucement à partir de 2018 en faisant des tout petits passages dans des trucs qui n'étaient pas vraiment des trucs d'humour, pas du tout même des trucs d'humour, mais quand même en mettant des blagues parce que j'aime bien les blagues. Ouais. Et en le faisant un petit à petit, et après en écrivant 20 minutes que j'ai fait devant 3 personnes, genre, tu sais, ma petite amie, ma meilleure amie et un ami qui allait monter sur scène avec moi après, 3 personnes dans mon salon en faisant semblant que c'était un truc de stand-up, et tu fais ok, ça s'est passé correctement, vas-y, on monte d'une étape, vas-y, on va faire maintenant une salle de 25 places, et j'ai fait 30 date l'année dernière à la Petite Loge.
Ouais.
Avec un truc qui est très, très différent de ce que je fais aujourd'hui.
Pour les gens qui ne savent pas, la Petite Loge, c'est vraiment la plus petite salle de Paris. Hein.
Ouais.
C'est,
ouais, ouais. En fait, on dit souvent qu'il y a 25 places à la Petite Loge.
C'est faux.
C'est vrai, mais il n'y a que 14 places fixes.
Ouais.
Les 9 autres places, c'est des sièges qu'on met dans le petit couloir qui permet d'accéder aux 14 places fixes. Et que quand ces 25 places sont là, il n'y a plus un centimètre carré de libre dans la pièce. Quoi.
Ouais.
C'est minuscule.
On est au chaud,
oui,
en
voilà.
Tant que spectateur.
Exactement.
Même pour toi, en tant qu'artiste, il y a 5 cm.
Tu peux toucher les gens du premier rang. C'est-à-dire que si tu te mets sur le bord de la scène et que tu tombes en avant, tu arrives pratiquement de l'autre côté de la salle. Quoi. C'est assez impressionnant.
Donc je ne savais pas, tu as fait 25,
30 dates,
30 dates, pour, 30 dates pour te roder là-bas.
Exactement. Et alors peut-être 30, c'était un petit peu exagéré, mais j'aurais peut-être pu en faire un petit peu moins. Mais en tout cas, ça te... Tu sais, tu commences à appréhender, tiens, ils étaient pas si chauds ce soir, comment tu gères le truc, après appréhender un petit peu la façon de poser ta voix, le rythme, qui était quelque chose qui était nouveau pour moi, parce que vraiment, le rythme, c'est moi qui le maîtrise complètement, il n'y a pas de feedback avec lequel il faut jouer pour pouvoir l'ajuster. Mmh. Et voilà, et ensuite, j'ai fait, vas-y, attends, je fais un vrai spectacle, et j'ai passé tout le mois de juillet à l'écrire. Il fallait que je tourne des vidéos aussi, parce qu'il y a des vidéos dans le spectacle que j'ai tourné entre la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre. Ouais. Et après, on y va, quoi. Et là, c'était un des moments où j'ai le plus peur de ma vie, vraiment.
C'est vrai?
La première, c'était en Suisse, dans un théâtre qui s'appelle Boulimie à Lausanne.
C'est un vrai défi, parce que le public suisse, pour avoir fait un peu de Montreux, tu vois, le public suisse, il est pas facile, quoi.
Non, c'est vrai. Alors, il se trouve que je suis, comme j'ai fait des vidéos sur la Suisse.
Voilà, t'es hyper connu là.
Voilà, et que je suis, en proportion des gens, je suis plus connu en Suisse qu'en France. C'est-à-dire, je pense qu'il y a plus de gens qui me connaissent en France, mais en Suisse, ils sont 2 millions. Et je le vois bien quand je marche dans la rue, enfin, c'est tous les 30 mètres.
T'es Michel Drucker, quoi.
Sans exagération, enfin voilà. Donc du coup, il y avait un petit peu ce truc. Bon, attends, je vais commencer par la Suisse aussi pour ça. Et donc le public était quand même très sympa. Et là, non, la terreur. Il y avait 4 personnes qui avaient vu le spectacle, dont moi, le régisseur et mon caméraman. La seule personne qui avait vu le spectacle et qui n'était pas, c'était pas partie de l'équipe qui le faisait, c'était ma petite amie, quoi. Et il y avait 4 personnes. Et t'as coup, t'es là. Et tu dis, vas-y, maintenant on est devant 150 personnes. Et il faut le faire. Tu t'es tapé un délire dans ton coin, en fait, tout seul. Et aussi, c'est par lâcheté que je voulais pas le montrer. C'est-à-dire que je dis, bah, voilà ce que je peux faire tout seul. Et ça s'est bien passé.
J'imagine.
Ouais. Mais j'étais pas sûr sur le moment que ça se passerait bien, mais je me disais que c'était pas sûr que ça se passe mal non plus. C'est toujours ça qui veut dire. C'est-à-dire, je pense que c'est possible que ça se passe bien. Si t'es sûr que ça se passe mal, tu le fais pas. Il y a plein de trucs que je fais pas pour cette raison-là. Mais là, tu dis, peut-être, mais quand même peut-être pas, quoi. Tu vois.
Ouais, je comprends.
Voilà.
Pour les gens qui se demandent, parce que l'une des raisons de ton succès, c'est tes chansons, bien sûr, et tes musiques. J'ai vu en fait que t'avais fait un groupe. T'étais dans un groupe qui s'appelait
Marquis Concept.
Entre tes 18 et tes 21 ans, c'est ça?
On l'a créé en avril 2000, le 14 avril 2000 même. Je me souviens de la date. Et c'est le dernier concert qu'on a fait ensemble. C'était en novembre 2006. Mais disons que en gros, c'était vraiment entre 2000 et 2004, quoi. Et c'était un des trucs, c'était vraiment le truc important de mon existence. Je pensais que j'allais devenir une rockstar, comme j'avais pensé que je deviendrais un joueur de la NBA.
Oui.
Et ben, je pensais que je deviendrais une rockstar. Ben, je suis devenu ni l'un ni l'autre. Mais je suis peut-être un peu plus, j'ai fait un peu plus de mon métier, la musique, que le basket, voilà. Mais.
Ça vient de là, en fait. D'où vient cette connaissance de la musique? C'est un truc que t'as travaillé quand t'étais plus jeune?
En fait, non. Mais en fait, on vient de. C'est le même truc de l'obsession totale. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à me passionner par la musique, en particulier pour Sting et Police. J'ai demandé une guitare à mes parents pour mes 15 ans. Et je dirais qu'entre 15 et 17 ans, c'est la principale chose que j'ai faite dans ma vie, c'était de jouer de la guitare 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour.
Et donc j'ai progressé très vite à ce moment-là et j'ai commencé, j'ai immédiatement écrit des chansons, puis un peu plus tard j'ai eu le groupe de musique dont j'écrivais les chansons aussi et donc c'était un, et ça vient de là en fait, ça vient d'un truc qui m'a complètement obsédé pendant un moment. Alors je n'ai plus progressé à la guitare depuis le tournant du siècle, hein, vraiment 2000-2001, j'ai exactement le même niveau qu'il y a plus de 20 ans, plus du tout progressé, mais disons c'est correct. Et il y a eu après, à l'époque, moi, j'essayais d'enregistrer mes chansons sur des enregistreurs 4 pistes où c'était hyper laborieux. Il fallait programmer la boîte à rythme. Et sinon, enfin, c'était vraiment...
Mais vous savez pas, les jeunes, tout ça, c'était avant le numérique.
Mais ils savent pas. Mais les gens, ils se rendent pas compte d'à quel point c'est facile maintenant. Mais c'est facile. Alors, bien sûr, il y a d'autres difficultés. Mais je veux dire, tu peux, chez toi, en une journée bien serrée, sortir une chanson... Ça va, quoi, tu vois, avec des effets, des rythmes, la batterie, tous les instruments, enfin, sans grand problème. C'était impensable, quoi. C'était impensable. Ou alors, c'était pensable, mais il fallait un niveau technique bien plus élevé qu'il faut aujourd'hui.
Il fallait avoir tous les instruments sur soi aussi.
Bien sûr. Et aujourd'hui, ah, tiens, tu fais une prise qui est pas tout à fait en rythme, où tu chantes, où tu sais, où ton clavier que t'as joué, il est pas tout à fait en rythme. Pam, quantize, ça te recale toutes tes notes que t'as mis à côté de la plaque. En un clic. Mais c'est ouf! En fait, et j'ai juste, c'est incroyable. Et ça a été un grand tournant. C'est-à-dire que moi, j'avais fait de la musique comme ça, et en fait, j'en ai pas fait pendant un bon moment. Et puis, en 2015, j'ai découvert Logic.
Logic est le logiciel de musique d'Apple.
Enfin, j'aurais pu découvrir un autre, mais il se trouve que c'est Logic que j'ai découvert. Et là, j'ai fait des tutos, etc. Et j'ai halluciné tout de suite des possibilités énormes que ça donnait. Et j'aurais évidemment pas pu faire toutes les chansons que j'ai faites et que je mets presque systématiquement dans mes vidéos s'il n'y avait pas Logic, quoi.
Est-ce que tu crées les chansons en fonction des thèmes ou alors tu crées d'abord les chansons et après tu te dis ok, ça ferait un bon thème de vidéo?
Non, je crée la vidéo et je me dis quelle chanson est-ce qu'on pourrait faire pour aller avec cette vidéo et voilà. Et c'est devenu un truc un peu genre, des fois il faut se creuser la tête un petit peu, genre qu'est-ce que je vais faire comme chanson, comment justifier qu'il y ait une chanson à l'intérieur, mais je le dis, bah non, en fait dans les vidéos je dis bah, et tout ça, ça c'est tellement sympa que ça me donne envie de faire une chanson, voilà. Et puis c'est comme ça que je le justifie.
C'est vrai que t'es tout premier depuis quand tu mets pas de chanson au début, on sent que t'es un peu timidou, quoi.
Un des premiers trucs que j'ai fait et que j'ai mis à la télé, qui était une chanson que j'avais faite, c'était le générique de Depuis quand.
Oui.
Depuis quand ça existe, les choses de la vie. Et ça, voilà, déjà, c'était une petite musique. Et assez souvent dans les épisodes, déjà, j'avais composé la musique qui était derrière. Bon, il y avait pas grand chose, hein. C'était juste une batterie avec des petits trucs un petit truc par-dessus. Mais je faisais des petits jingles. Café gourmand pour le premier épisode, des trucs comme ça. Je faisais toujours une espèce de je chantais une phrase clé, tu vois, par exemple pour le type qui avait inventé la perche à selfie, je disais et un jour il se dit, si mon bras était plus long ce serait plus facile, et voilà. Ou le type qui a inventé le digicode et qui a dit qu'il avait été inspiré par un dessin animé de Popeye.
Ah ouais, incroyable.
Et qui s'est dit je vais copier Popeye sa race dans la vraie vie. Et voilà, je sais c'était des petits
ça
moments.
Ça marche très,
quoi,
bien.
C'est des petits moments, et après en fait ça a gonflé. Le premier épisode où j'ai fait une vraie chanson, c'est l'épisode sur les depuis quand ça existe les camions qui font le bip bip, oui, des camions qui reculent,
oui,
où ça commence par une chanson de 45 secondes et voilà. Et ça on revient à un truc que je disais, mais c'est les trucs que je retiens. Et si je commençais par une chanson de 45 secondes, ouais, oh, est-ce que ça va marcher? Ah, j'en sais pas. Et en fait, c'est ça qui est excellent. Et c'est pour ça que tu t'emmerdes jamais. C'est que tu t'obliges toujours à dire, vas-y, attends, faut que je fasse un truc que j'ai pas fait jusqu'à présent. Et quand t'y arrives pas, c'est là où t'es déçu. C'est-à-dire, ah, putain, ça ressemble trop à ce que j'ai fait avant. Il y a pas au moins un petit truc nouveau. Et voilà.
Pour revenir sur Marquis Concept.
Ouais, bien sûr.
Parce que j'aimerais bien t'en faire parler.
Bien sûr.
18 ans, tu veux devenir rockstar.
Ouais.
Si j'ai bien compris, parce que j'ai cherché, c'est impossible de retrouver.
Non, jusqu'à il y a quelques années, c'était possible parce qu'il y avait MySpace. En fait, ouais, la toute fin du Marquis Concept, c'était le tout début de MySpace.
Ah oui.
Donc on voit à quel point c'était il y a longtemps, en fait.
C'est clair.
Ouais.
Mais vous auriez peut-être pu exploser si vous aviez duré un peu plus grâce à MySpace, peut-être. Tu vois, genre Orelsan, par exemple. Tu vois, lui, il a explosé grâce à MySpace.
Je pense à ça quelquefois. Je pense à ça et je pense qu'en fait, nos chansons, elles étaient marrantes. Visuellement, on était un peu bien. On faisait des espèces de petits shows. C'est sûr que si on avait pu avoir une caméra normale et qu'il y avait eu YouTube,
En fait, c'est pas impossible parce qu'en fait, il y avait un univers assez sympa. On était assez mauvais musiciens, ça c'était un petit problème. Mais c'est beaucoup moins grave maintenant d'être musicien parce qu'il y a plein de trucs pour corriger tes défauts.
C'est plus dur de trouver un univers et de trouver un truc marrant parce que c'était des chansons marrantes. Hein,
c'était des chansons avec des blagues,
que de bien faire de la musique finalement. Je crois.
Mais à maintenant, complètement. Alors il y a des gens qui disent, t'as vu, j'ai pas mis d'autotune, j'ai pas quantize, etc. Mais c'est comme les chauffeurs du taxi qui a dit, vous avez vu, j'ai pas utilisé Waze. Ouais, mais enfin, est-ce que t'es arrivé plus vite ou pas? Bah non, en fait. Donc c'est vraiment super. Mais c'est comme arriver à super bien monter à cheval pour aller à Marseille, tu vois. T'as pas besoin. Il y a le TGV. Et c'est hyper beau aussi parce que c'est inutile, mais voilà. Mais je pense souvent, en fait, moi, j'ai 10 ans de plus que les pionniers de YouTube en France. J'ai 10 ans de plus que les Norman, Cyprien et compagnie. Et je me suis dit souvent, mais j'ai tellement en plus été un dandy, tu vois, qui, oh non, mais je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Oh, tiens, un petit peu de musique, un petit peu de machin. Pour le coup, je suis assez certain que s'il y avait eu YouTube quand j'avais 20 ans, j'aurais fait ça et j'aurais mis Marquis Concept sur YouTube et peut-être qu'on aurait eu un petit écho, quoi. Ouais.
Ok. Comment tu le vis aujourd'hui?
Le fait de.
Bah, de. En fait,
d'échouer avec Marquis Concept.
Bah, en fait, je sais. Ouais. Tu vois ça comme un échec, toi?
Je vois pas ça comme un échec parce que en fait c'est toujours le truc, tu sais, quand t'es arrivé à faire un truc qui te plaît dans la vie, tu te dis bon attends, en gros le chemin que j'ai pris c'était peut-être le seul qui pouvait amener là où je suis, donc en fait t'as pas envie d'enlever une pièce, de dire tiens j'enlève cette pièce du passé parce que tu te dis bah ça se trouve tout se serait écroulé, tu vois. Mais oui, sincèrement, en fait je pense qu'il y avait un truc très bête, c'est qu'on travaillait pas assez. Il y avait un peu ces trucs d'ego adolescent teubé, ou dit attends, non, on va travailler cette musique correctement, on va le faire bien. Non, toi tu peux pas jouer de la guitare tout le temps sur le truc machin, faut que tu joues un petit peu moins. Vas-y, on conçoit l'arrangement. Et ça venait aussi du fait qu'on n'était pas assez compétent, et deuxièmement que il y avait pas de, en fait ça avait beau être censé être, c'était censé être moi le leader parce que j'étais le chanteur, celui qui écrivait quand même la plupart des chansons, mais j'avais pas d'autorité sur les gens. S'ils me disaient bah non, j'ai pas envie, tu vois. Et ça manquait un peu de cohérence comme ça. Et donc de ce point de vue-là, je pense que ça me rend un peu triste des fois parce que je pense qu'on aurait pu progresser plus vite et faire des trucs mieux à l'époque.
Et t'as pas eu envie de te lancer solo?
En quelque sorte, c'est ce que j'ai fait quand je fais une petite chanson de mon côté.
Non, mais tu vois, juste après l'arrêt de ma
Mais, mais oui, mais parce qu'en fait, c'était pas concevable. Parce que moi, je connaissais pas tout le pan de la musique électronique qui existait déjà un petit peu. Mais genre, qu'est-ce que je veux dire? Mais je suis sur scène. Bah non, j'ai besoin d'un type qui joue de la guitare, d'un type qui joue de la batterie, d'un type qui joue du clavier, d'un type qui peut-être jouer de la basse moi, ou jouer un peu de guitare. Mais genre, l'autre option, ça aurait été genre, je trouve des musiciens qui sont mes musiciens, ils font ce que je dis, mais ça c'est beaucoup plus dur, ou alors faut les payer, j'avais pas d'argent. Et donc en fait c'était mais encore une fois, ouais, je pense que maintenant si ça avait été la même chose, ouais, j'aurais vu, attends, mais oui, je peux faire des boucles sur Logic, je me prends un séquenceur sur scène et en fait je me démerde et je joue un peu de guitare par-dessus et mais oui, mais en fait je pense que c'était peut-être techniquement faisable déjà il y a 20 ans, mais pas, j'en avais aucune idée en fait, quoi.
Ça sera peut-être pour tes 50 ans.
Ouais. Ouais, je sais pas si vraiment c'est un truc auquel je pense des fois, c'est genre est-ce que moi, genre, si quand je continue à faire ces mêmes blagues complètement hystériques à 55 ans, est-ce qu'il y aura pas genre oh arrête, parle moins fort maintenant, tu sais, t'as vraiment une gueule toute fripée, c'est plus le moment de d'être hystérique comme ça. Puis après je pense, je sais pas, des gens comme Éric Judor, mais ceci dit Éric Judor, lui il dure terriblement, mais je pense qu'il est servi aussi par la lisseur de son visage. Quand on voit Éric Judor il y a 30 ans, il y a 25 ans, son visage, il a pas tellement changé, quoi. Il a gardé cette sorte de lisseur. Et je pense qu'il est servi en ça par le fait qu'il a pas de cheveux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de différence. Il avait déjà pas de cheveux à ce moment-là. Il n'en a plus maintenant. Et donc, en fait, il y a une sorte de, il est resté un peu sans âge pendant tout ce temps-là.
C'est
et...
sûr que quand t'as une tête de vieux à 20 ans.
Voilà, c'est
à 40 ans. Ça change pas tant.
Bon, faut pas dire ça. J'aime beaucoup Éric Judor. Mais il a vraiment
chauve. En fait, j'étais chauve à 20 ans. Tu vois. Donc je me suis dit, ok, t'as une tête de vieux, c'est entériné, quoi. Hop. Voilà.
Et en fait, t'auras la même quand t'en auras 45. Voilà. T'as quel âge là?
45.
Ouais, tu fais moins, tu vois. Ah, c'est voilà. Ça qui est fou. En fait, c'est ça.
Raser la tête.
Alors que moi, j'ai encore des cheveux un peu, et pourtant, je crois que j'ai l'air, je suis plus tapé que toi, quoi.
tu vois.
T'es plus tapé.
Plus tapé, ouais. Quand on dit qu'on est tapé, ça veut dire qu'on a, on a pris un coup, quoi.
T'as pris un coup.
J'ai pris un coup, quoi.
Ok, donc pas Rockstar finalement.
Bah non, pas Rockstar, petite. Tu sais, après, tu rencontres des gens qui ont un peu percé légèrement, ou en tout cas plus que toi, et t'es un petit peu jaloux et tout, mais non, jamais, pas Rockstar, quoi.
Tu te lances dans des études de journalisme.
Oui, parce qu'il faut bien trouver un truc à faire au bout d'un moment, et j'ai fait des stages, j'ai fait des études d'histoire beaucoup trop longues, et je fais, ouais, vas-y, journalisme. Journalisme, pourquoi? Parce qu'on apprenait des trucs tous les jours, et donc ça nourrissait un peu ma curiosité, ça c'était très, très, très bien. Et donc voilà, et ensuite, je me suis lancé là-dedans, j'ai fait une école de journalisme à Paris, l'Institut français de presse. Et ensuite, surtout,
t'es allé à Berkeley.
Je suis allé à Berkeley. Et ça, c'était un changement radical dans toute mon existence. Quoi.
Vraiment... Dans quel sens?
Bah, en fait, j'ai découvert, je sais pas, c'est peut-être par hasard que c'était pas le cas en France, mais.
Berkeley, c'est en Californie, c'est aux États-Unis, ouais, je remets un petit peu de contexte.
Oui, c'est l'école de journalisme de l'université de Berkeley.
Qui hyper réputée.
Très bonne université, très bonne école, les États-Unis. Au bout de 2 jours d'école, tu sais, il recevait des gens, des guests pour parler à l'école. Le type qu'on recevait, c'était le créateur de la série The Wire, David Simon. Ouais, au bout de 2 jours, quoi. Voilà. Et après, bien sûr, on pouvait aller lui poser des questions. Enfin, et j'ai découvert, en fait, aux États-Unis vraiment des trucs qui sont mes graals maintenant dans la vie, quoi. C'est-à-dire, dans le journalisme, l'extrême précision, c'est là aussi que j'ai découvert le journalisme de données, l'obsession des faits, de la vérification. Je parle du très bon journalisme américain. Il y a des trucs nuls, mais en tout cas, le meilleur journalisme américain, c'est le meilleur journaliste du monde, à mon sens. Donc, j'ai découvert ça. Et par ailleurs, j'ai découvert tout l'aspect divertissement, humour des Américains en même temps. J'ai découvert The Onion, on dit que c'est l'équivalent du Gorafi, c'est plutôt l'équivalent, le Gorafi qui est l'équivalent de The Onion, aux États-Unis. J'ai découvert le stand-up américain, j'ai découvert aussi cette obsession qu'ont les Américains de jamais être chiants quand ils parlent, de jamais considérer que l'attention de l'audience leur est due, même quand ils sont profs. Quand ils sont profs en France, j'avais souvent eu ce truc de genre, bah attends, je suis prof, tu m'écoutes, je m'en fous de comment je te donne mon cours, t'es obligé de m'écouter. Et aux États-Unis, il y a vraiment ce truc, bah non, ça se gagne, quoi. Et c'est présent dans tout le quotidien, quoi. À l'école, entre les gens, quand tu fais une présentation, les gens font gaffe et ont un respect pour l'audience, et en tout cas le fait, ils savent qu'il faut la gagner, et en fait voilà, c'est les deux mamelles, en fait, que j'ai découvertes aux États-Unis, et en fait qui ont beaucoup déterminé ce que j'ai fait par la suite, quoi. Ensuite, très vite, quelques années après ça, quand j'étais sur Canal+, je me suis dit, attends, il faut que je fasse un truc qui soit hyper précis sur les faits et avec des blagues, quoi. Et on a fait le Chiffroscope avec Leonard Cohen pendant quelques années au Canal+, qui était un dessin animé avec des chiffres qui répondaient à des questions sur l'actualité, mais où il y avait des blagues dedans, des petites histoires, etc. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment, ses origines.
C'est là l'origine.
Ouais, complètement.
Quand est-ce que tu décides de passer devant la caméra? Parce que ça aussi, j'imagine que c'est un shift pour toi. Tu te dis, ok, bah, je vais me mettre en scène maintenant.
Oui, oui. En fait, c'était avec Depuis Quand?
Ouais. Moi, c'est la première fois depuis quand?
J'avais fait quelques petits trucs, mais très peu. Dans le Chiffroscope, c'était un dessin animé. Tous les trucs que je faisais, j'ai fait des reportages pour l'effet papillon. Je travaillais pour l'effet papillon pour Canal+ pendant plusieurs années. C'était pas des trucs incarnés. Et en fait, c'est juste parce que c'est tiré de la nécessité, quoi. C'est-à-dire que, genre, en gros, je voulais faire mon pilote tout seul, sans avoir de trucs à demander à personne, en pouvant rater autant de fois que je voulais, en pouvant refaire sans que personne me dise, attends, c'est chiant là, en maîtrisant la totalité du processus du début à la fin, en prenant le temps qu'il fallait pour le faire. Le pilote de Depuis Quand, ça s'est étalé sur un an, quoi.
J'ai
fait des trucs et genre, ah non, putain, j'essaie le montage, ah, ça marche pas, et je tourne ce truc, ah ben non, mais c'est beaucoup trop long, c'est chiant, ah putain, mais tu reviens une semaine après, ah attends, si je fais ça comme ça. Et en fait, si on veut maîtriser la totalité et pouvoir le faire exactement au rythme qu'on veut, bon, on n'a pas 50 choix, quoi. C'est voilà. Et puis, bien sûr, ça me plaisait. Tu vois, j'étais content d'essayer de me dire, attends, est-ce que je peux faire des petits sketchs? Est-ce que je peux me mettre en scène? Est-ce que et donc j'avais un goût pour ça. Mais c'était à la fois, voilà, la nécessité et aussi, c'est marrant si j'arrive à le faire. Et après, quand tu vois que ça marche un petit peu, tu fais genre, attends, là, je crois que j'ai réussi ma tête. Je crois que la blague, elle marche. C'est génial, quoi. C'est génial. Parce qu'encore une fois, j'avais jamais fait ça.
Comment tu le sais que la blague, elle marche?
Alors, très, très bonne question. En fait, la vérité, c'est que surtout au début,
surtout au début, maintenant un peu plus, mais j'avais jamais fait, donc tu sais pas. Mais tu dis, ah putain, je crois que ça va, tu vois. Et il y a un truc, alors après, bien sûr, tu le montres à des gens. Et moi, j'ai montré le pilote de Depuis Quand à des gens, et il y avait déjà tout ce qu'il y a dans le Depuis Quand après. Et genre, vraiment, ça a été assez unanime dans, putain, c'est vachement bien.
Tu tiens un
bien,
truc, ouais.
Tu tiens un truc, c'est vachement bien. D'ailleurs, je l'ai proposé à Canal+, qui a dit oui tout de suite, quoi. Mais avant ça, et même encore aujourd'hui, comment tu sais si c'est drôle ou pas, tu laisses de côté pendant quelques heures, voire pendant une journée. C'est-à-dire, tu fais ton montage et il y a vraiment des moments où tu montes, t'as plus aucune idée de si c'est bien ou pas. Tu fais ton truc, tu fais, ouais, ça m'a l'air bien, mais en fait, j'en sais rien. Et vraiment, le meilleur moment, c'est quand t'es dans un montage, c'est tu finis ton montage, il est 1h du matin, là, tu vas te coucher, et après, il y a le premier moment où tu le regardes le lendemain matin. Et ça, c'est un moment, c'est genre, moi, je fais attention à ce qu'il n'y ait aucun bruit, de ne pas être dérangé, je ferme mon téléphone, je mets mes écouteurs, et j'appuie sur ma timeline. Et là, je sais que l'avis que je vais avoir là, il vaut beaucoup plus que l'avis que j'avais à 1h du matin quand j'avais la tête dedans, quoi. Et très souvent, tu es dans une impasse dans ton montage ou dans un truc, tu sais pas, c'est pas top. Tu regardes le matin suivant, tu fais, bah attends, vas-y, je coupe là, j'enlève une minute, je mets cette phrase à l'envers, paf, et voilà.
Tu montes toi-même ?
Oui, je monte moi-même.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui.
Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Non, mais c'est un vrai truc, je savais pas.
Ouais.
Tu veux garder la main sur.
Mais encore une fois.
Tu t'es formé ? C'est pas des montages. Alors, c'est pas des montages évidents non plus, quoi.
Non, c'est plutôt. C'est même un truc où le montage est particulièrement important parce que c'est, le montage, ça veut aussi dire sonorisation, ça veut aussi dire, tiens, effet, cut, qu'est-ce que tu mets comme musique, quel son tu mets, qu'est-ce que tu superposes à quoi sur le fond vert pour que ça ait l'effet que tu veux. Ça vient de deux choses. On parle de Suisse, hein. Pour intéressant, de plus en plus, je délègue le 95% du montage à Adrien qui travaille avec moi. Mais je parle pour les trucs que je fais et, dans lesquels je mets le plus de moi-même, c'est toujours moi qui monte tout. Et c'est
la chronique sur la Suisse que tu
fais. Ouais, par exemple, Depuis Quand, c'est moi qui ai monté tous les Depuis Quand. C'est moi aussi qui ai montré les pilotes pour Arte, etc. Mais c'est juste que j'ai besoin de ça pour créer, en fait. C'est pas un truc genre, ok, c'est tellement là que la création se fait que je saurais même pas quoi dire à un monteur, quoi. C'est genre, là où ça peut m'aider, c'est genre, attends, si j'ai une idée de montage où je mets ça avant, et je mets une musique de ça, je mets des trucs, etc., et je peux décrire ce truc-là par le menu super précisément à un type qui va mettre un peu plus de temps que moi à le faire probablement, et ça va peut-être me faire gagner une heure. Mais c'est la seule chose. C'est-à-dire, en gros, c'est là que la vidéo se crée, quoi. Donc, je sais même, en fait, ça aurait déjà créativement très peu de sens de le donner à quelqu'un d'autre, puisque pour moi, c'est là que se fait la création, enfin, le cœur de la création. Et par ailleurs, je te dis, je saurais pas quoi lui dire.
Ouais, je comprends.
Parce que il faut, par exemple, c'est un truc tout con, genre, t'as une idée, tu fais ça, machin, etc., ça marche pas. Bah, faut trouver autre chose. Et je vais pas demander au monteur de trouver autre chose, tu vois. C'est genre, bah attends, tu te creuses la tête. Ah, attends, en fait non, faut que je change ma phrase, faut que je change mon com, il faut que je dise pas ce mot-là mais celui-là, il faut que je mette une seconde de plus entre machin. Donc c'est, je saurais même pas comment confier ça à quelqu'un d'autre, en fait. Voilà.
Ah, je comprends. Mais c'est hyper intéressant, hein, parce que t'as appris, quoi.
Bah, j'ai fait quand même l'école de journalisme pendant un moment où on a appris un petit peu de montage quand même. Oui. Et ensuite, j'ai pris Adobe Premiere. Et je me souviens très bien du premier montage que j'ai fait sur Adobe Premiere quand j'ai acheté l'ordinateur. C'était en 2016. Et c'était une chanson parce que je travaillais pour le Gorafi pendant un petit moment. Et c'était une chanson que j'avais faite pour le Gorafi, en fait. Pour un passage du Gorafi sur Canal+. Et ça s'appelait Allemagne, I Make Love Into Your Face. Et j'avais fait la musique sur le Jig et j'avais fait le clip. Mais genre, tu vois aujourd'hui, mais c'est d'un rudimentaire, le montage. Et ça m'avait pris une journée de labeur, de machin. Mais c'est comme tout, quoi. La fois d'après, tu te dis, bah voilà, tu repars un peu plus loin. Et aujourd'hui, ouais, je suis assez, tu gères. C'est le truc où je vois, genre,
t'as le niveau d'un très bon monteur.
Ouais, tu peux me tester en montage. Il y a des trucs que je connais pas, et surtout il y a des styles que je connais pas. Ouais. Tu vois, faire des trucs avec des effets de malade et tout, je pense que je pourrais pas. Mais pour monter un truc qui a du rythme et bien fait, c'est difficile de me tester, quoi. Voilà. Et je dis pas ça de grand chose, hein. Mais
oui, c'est... Voilà, c'est... j'entends bien que c'est pas.
Il y a anglais. Je parle super bien anglais. Voilà.
Tu danses super bien. Il faut qu'on en parle.
Ah, je sais pas.
À oui. quel moment tu te dis, ok, c'est cool de faire des chorés? Parce que pour moi, ça fait partie aussi de.
Ouais.
C'est un des ingrédients de la recette de ton succès, quoi.
Mais c'est pas. C'est vraiment tout bêtement de.
Tu danses face cam, quoi. Et...
Mais c'est plus, c'est genre, t'as une musique, ok. T'es à l'intérieur de ton épisode, t'as ta musique, etc. Tu montres quoi? Tu montres quoi dans la musique? Eh bah, en fait. Finalement, la danse, c'est juste une bande d'images qui va bien avec la musique. Voilà. Et quand tu danses sur une musique, bon, bah voilà, ça fait l'illustration visuelle de la musique. Et je faisais des vidéos. Qu'est-ce que tu fais comme illustration visuelle d'une musique? Et en fait, ça coule de source, quoi. Il n'y a pas de genre, depuis longtemps, j'ai envie d'être danseur, ce sera l'occasion de montrer mes talents. C'est juste, voilà, tu veux illustrer quelque chose. Et ben en fait, danser, ça coule de source, quoi. C'est pas la seule chose. Tu peux faire des animations, des trucs comme ça. Mais fondamentalement, c'est plus dur que juste faire une petite danse bien sentie que tu fais et que tu montes par-dessus ce que la musique, quoi.
Incroyable.
Voilà.
Ça t'est venu comme ça.
Mais ouais. Après, j'avoue que j'arrive à...
J'adorerais voir les rushs de ces moments de solitude quand t'es en train de danser.
C'est ridicule.
Sans musique, etc., j'imagine.
C'est ridicule. Et Adrien, qui est mon caméraman, avec les années, je pense qu'il m'a vu danser 9 heures, quoi, devant la caméra. Et de façon complètement ridicule, disant, je vais faire ça.
T'sais, avec
en
des
silence,
regards intenses.
Avec le silence et tout. Et tu vois, t'entends un petit peu la musique au loin parce que c'est sur le téléphone ou un truc comme ça. Et t'entends les bruits des pas par terre et le machin et trucs et les, et mes essoufflements et mes petits trucs comme ça dans le micro parce que je suis essoufflé. C'est ridicule. Il y a vraiment, je peux faire un film ou d'une tristesse infinie avec les rushs de moi qui danse tout seul sur fond vert en plus, puisqu'il n'y a pas de...
Peut-être un jour pour un docu sur ton parcours, quoi, tu vois.
Ouais, ouais.
Ça serait de l'illustration, quoi. Voilà. C'est ça aussi de cartonner sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur TikTok, c'est des longs moments où tu danses tout seul comme un con
devant la caméra. Ouais.
Je voudrais aussi qu'on parle de, parce qu'après je vais devoir te laisser, mais ouais. Je voudrais aussi qu'on parle de cette opération que tu as fait de vente de t-shirts. Mm-hmm. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, mais je vous mettrai tous les liens pour aller découvrir les vidéos. Dans ta première vidéo, je crois, sur la Suisse, hein, c'est ça?
C'était la première qui a eu du succès, mais c'était la troisième.
Ok. Ouais. Tu fais une vidéo sur les montres qui coûtent cher.
Ouais.
Et dans cette vidéo, t'as un petit segment de chanson où tu dis « je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement
». Ouais.
Où t'expliques un petit peu que le concept, c'est en gros à quoi ça sert les montres chères, dire.
C'est des biens positionnels qui.
Des biens positionnels.
Voilà, qu'on n'achète pas pour leur fonction, mais on les achète pour transmettre une information au monde entier que genre on possède des thunes. Quoi.
Donc c'est devenu un succès, un mème. T'as fini par sortir une version longue de.
Oui, tout à fait. Oui, c'est devenu un mème sur TikTok en fait. Ouais.
Et t'as vendu. T'as lancé des t-shirts.
Oui.
Bah, c'est génial.
Bah, en fait, j'ai lancé des t-shirts sur lesquels il y a marqué « Je possède des thunes ». Et en fait, il y a 4 t-shirts et il y en a... Et le premier n'a pas d'étoile, le deuxième a une étoile, le troisième 2 étoiles, le quatrième 3 étoiles. Et plus il y a d'étoiles dessus, plus ils sont chers. Et en fait, c'est juste le principe du bien positionnel. Pourquoi ils sont plus chers? Bah, parce que tout le monde sait qu'ils sont plus chers parce qu'ils ont 3 étoiles. Et donc, tu payes le fait de pouvoir dire que t'es riche.
D'où te vient cette idée?
Bah en fait c'est juste j'ai fait le clip de Je possède des thunes et dedans j'avais fait imprimer un t-shirt avec les paroles et il y a des gens qui m'ont dit genre on aimerait trop avoir ce t-shirt et je me suis dit attends je pourrais le vendre mais il faut que ce soit un peu marrant et en fait j'ai juste fait une extension du principe que j'avais expliqué dans la vidéo sous la forme d'un vrai une vraie boutique sur internet qui vraiment transpose le principe et tout ce que je te dis là sur le fait que c'est plus cher. En fait, pourquoi c'est plus cher? Parce que tout le monde sait que c'est plus cher. Je le dis de façon complètement transparente sur le site. Et c'était, si tu veux, une espèce de petite extension dans le monde du commerce, peut-être une sorte de petite performance d'art contemporain pour faire l'extension de la chanson. Quoi.
T'as vendu 1300 t-shirts.
Ouais.
T'as vendu. Donc le dernier t-shirt, il est à 79€, qui est exactement le même t-shirt, on est bien d'accord.
Oui, sauf qu'il y a 3 étoiles, mais sinon c'est le même.
T'as vendu combien de t-shirts à 3 étoiles?
Je sais plus, moins que de t-shirts. Oui. Quand même, ceux que j'ai vendu le plus, c'est ceux sans étoiles. Mais j'en ai vendu quand même, je crois, c'est dans les centaines de t-shirts avec des étoiles, en tout cas.
Wow.
Pas 3 étoiles, forcément, ça, pas beaucoup, mais peut-être une étoile, beaucoup. Et surtout, j'avais fait un 4e t-shirt qui était une édition limitée avec mon visage, qui s'appelait le modèle T pour thune.
Pour qui a mis en l'édition limitée?
Que je, Bah, parce que pourquoi je l'ai mis en édition limitée? Bah pour dire c'est encore pour aller au... non c'est ce truc de l'exclusivité, genre ouh là là, si vraiment. Et en plus lui il était vraiment hors de prix, il y avait mon visage dessus et il coûtait 150 euros, mais 150 euros, et les gens je leur envoyais aussi un billet de 20 euros dédicacé, donc c'était un petit peu moins cher, même si le but c'était pas de dépenser le billet, mais quand même, donc c'était plutôt 100-130, et ça il y en avait 100 et je les ai tous vendus.
Le succès.
Tu considères que t'as du succès, toi, aujourd'hui? Parce que c'est souvent une question que les gens se posent à propos de ce nom de podcast. Donc, je suis pas très fier, hein, je l'aime pas trop, tu vois, parce que ça veut rien dire.
Mais surtout, c'est flatteur. On dit genre, ah, s'il m'interview sur le succès, ça veut dire que j'ai du succès.
Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu m'invites? J'ai pas de succès. Tu vois, donc.
Alors que moi, j'ai fait non, en fait.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Ouais, je comprends.
Tu considères que tu as du succès aujourd'hui?
C'est plus... Dans une certaine mesure, oui, bien sûr. Et le truc, c'est que le succès, c'est comme... C'est un spectre, quoi, tu vois. Ça peut aller de pas du tout à beaucoup. Et genre, par rapport à pas du tout, oui, j'en ai. Mais c'est genre, sur l'échelle de ce que ça, du succès maximum qu'on peut avoir... Je suis à 0,5%, donc voilà. Mais oui, j'ai fait quelque chose de personnel qui me tenait énormément à cœur et dans lequel j'ai mis vraiment tout ce que je considère être le meilleur de moi-même. Et il y a des gens qui aiment bien et qui regardent mes vidéos.
Ce serait
qui...
quoi ton échelle 100 de succès?
Mais je sais... je pense que mon échelle 100 de succès, ce serait d'avoir 100 fois plus de gens qui regardent, tu vois. Mais je sais pas, parce que... Ou alors c'est... Non, c'est une bonne question, parce que en fait, ça voudrait juste dire qu'il y ait plus de gens qui regardent, parce que moi, en fait, fondamentalement, je fais ce que je veux faire exactement, et genre, il y a des gens qui regardent, ce serait qu'il y ait plus de gens qui regardent, ce serait peut-être d'arriver, en fait, en tout cas, il y a des choses, parce que du succès, c'est un peu, genre, objectif, c'est genre, voilà, il y a tant de personnes qui regardent mes vidéos. Ensuite, c'est, qu'est-ce que je considérais, moi, avoir réussi, en fait, c'est surtout ça, plutôt, je pense, la question. Avoir réussi, c'est continuer, à faire des choses, à m'améliorer, quoi, et à faire des, et aller dans des trucs où je suis moins à l'aise, mais où je sens que je peux faire, quoi, tu vois. Il y a quand même une partie de moi où je me dis, ça, c'est récent, hein, mais que comme je me suis dit il y a 6 ou 7 ans, genre, ah, peut-être je pourrais faire un peu de scène, et j'ai fini par le faire, je me dis genre, de la fiction, en fait. Filmer des trucs bien au lieu d'expliquer des choses, de les incarner de façon fictionnelle et de le faire bien avec des trucs courts et peut-être un peu plus longs ensuite, et peut-être après faire des trucs qui font 20 minutes, puis peut-être même un jour un film. En fait, voilà, là, c'est un petit horizon très lointain dans mon esprit, mais où je me dis, ah, si j'arrivais à faire ça, je pense que j'aurais l'impression d'avoir encore mieux réussi, quoi. Voilà.
Le jour où David sortira son long métrage au cinéma, vous l'aurez entendu ici.
J'espère que la prémonition se réalisera.
En tout cas, merci beaucoup, David.
Bah, merci à toi.
Je mettrai tous les liens pour aller découvrir pour les gens qui ne connaissent pas.
Ouais,
malheureux.
Ouais.
Et aussi.
Ils sont plus nombreux que les gens qui connaissent, hein, encore.
J'espère pour toi. Et aussi tous les liens pour aller découvrir ton spectacle, les dates de tournée, etc.
Ouais. Cool.
Merci beaucoup pour ton authenticité, là, pendant une heure.
Bah oui, merci à toi.
C'était super.
Bah, c'était super bien, ça m'a super plaisir.
Merci beaucoup.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.